Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission de débrief du MotoGP. Et pour cette première, ce soir, eh bien, je vais vous présenter les personnes qui vont m'accompagner sur ce premier débrief. Michel Turcot. Alexis Delis, qu'on ne présente plus, les deux journalistes de Moto Revue. Sébastien Poirier, le président de la Fédération Française de Moto. Et on va tout de suite eh bien, rentrer dans le vif du sujet avec Michel Turcot. Michel, on débrief avec la première rubrique, c'est l'image du week-end, c'est Johann Zarco, bien sûr.
Bah oui, Johann Zarco, deuxième. Donc c'est son meilleur résultat depuis le Grand Prix d'Espagne 2018. À l'époque, c'était sa deuxième saison, il était sur une Yamaha du Team Tech 3. Donc une superbe course, c'est son 49e podium en Grand Prix, son 8e en MotoGP. Il n'est plus qu'à un podium de Raymond Roche. On rappellera qu'il y en a deux devant lui, hein, Fabio Quartararo qui a 10 podiums et Christian Sarron qui en a 18. Donc la course magnifique, il part de la deuxième ligne, sixième position. Il part en super départ comme tous les pilotes Ducati, avec leur all-shot device, son moteur et ce système.
Puis la ligne droite aussi qui aide aussi. Voilà.
Hein. Donc super départ, on se retrouve avec les quatre Ducati GP20 en tête au bout de la ligne droite. Johan, il reste derrière Francesco Bagnaia et Jack Miller sur le début. Il double rapidement Miller qui a des problèmes de pneus très, très, très tôt, on va dire, dans la course.
Il sera pas le seul d'ailleurs.
Non, il sera pas le seul. On va revenir sur ses problèmes de pneumatique. Donc il fait 16 tours derrière Francesco Pecco Bagnaia et puis il passe devant. Ensuite, c'est Vinales qui les double. Là, il essaye de s'accrocher à Vinales pendant les 6 tours qui restent. Mais bon. Vinales avait un truc en plus, il a encore mieux géré ses pneus. Mais sur la fin de course, il est rattrapé par Joan Mir. Il y a une belle bataille et il la remporte. Il termine donc deuxième grâce à une moto qu'il a bien exploitée. Mais aussi, il est premier pilote Ducati devant les deux officiels. Donc c'est un super résultat. C'était sa première course avec le team Pramac. On se rappelle que Johan, le Qatar, c'est un circuit qu'il aime, mais c'est son premier podium sur circuit, hein, toutes catégories confondues, depuis ses débuts en Grand Prix en 2009. Il n'avait jamais réussi à monter sur le podium. Avec le team Pramac, il a retrouvé
une ambiance familiale, non ?
Exactement. Il a dit, hein, il se sent aussi bien qu'il était chez Tech 3. Mmh. Il a une moto
Factory.
Voilà, comme il avait chez Tech 3, même si elle était spec B, on va dire. Donc, il a une très bonne moto. Il a le soutien de l'usine. Dalinia l'apprécie énormément. Il est souvent dans le box. Il écoute beaucoup. Ça va au bout et ça fait un super début de saison, quoi.
Alexis ?
Justement, Michel, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que cette place chez Pramac, elle est presque pas meilleure que celle dans le team officiel pour Joan, finalement ?
En tout cas, on peut imaginer qu'il y a un peu moins de pression quand on est chez Pramac que lorsqu'on est dans l'équipe Factory. Après, on sait qu'il était en balance pour une place avec Bagnaia. Bagnaia était préféré parce qu'il est plus jeune.
Italien aussi, non ?
Ça a peut-être un peu joué, mais c'est surtout, je pense, que le profil du pilote... Était plus tourné vers l'avenir. Voilà. Mm-hmm. Mais en tout cas, un très bon début de saison.
Président, j'imagine que ce début de saison avec un Français dès la première course sur le podium, forcément, ça fait plaisir.
Oui, ça fait plaisir, surtout pour Johan, parce que c'est vrai qu'il a traversé une période difficile il y a maintenant un an et demi, deux ans. Il a fait un choix très courageux qui a été à l'époque contesté. Et à un moment, on se demandait où est-ce qu'il pourrait rebondir. Et il a toujours su où aller, ce qu'il voulait faire. Et je suis vraiment très heureux pour lui parce qu'il a fait un très bon choix, il travaille énormément, il a un très beau team, il est très bien dans ce team. Et puis il a fait une très belle course, raisonnable, réfléchie, à l'image de Johan. Et donc aujourd'hui c'est un très beau podium. Moi je retiens également les deuxièmes et troisièmes places pendant quelques tours de nos Français. Je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du MotoGP d'avoir deux Français sur...
deux Français dans les cinq premiers, justement, Michel.
On a eu deux Français en tête d'un Grand Prix, hein, c'était au Mans.
Sous la pluie, on se rappelle.
C'était en 2007, si je ne me trompe pas. D'accord. Et ça n'a pas duré.
Oui, tout à fait, il y a eu quelques chutes assez rapidement, mais en tout cas, c'est vrai.
On a eu une seule fois dans l'histoire des Grands Prix, deux Français sur le podium en catégorie N, en 1954.
Ah, très bien.
De mémoire, Pierre Monneret et Jacques Collot.
D'accord. Voilà. Bon. Et enfin, donc, tout ça nous amène à parler aussi de Fabio Quartararo.
Voilà, donc on va peut-être dire un petit mot sur ces deux Français qui terminent dans le top 5. Donc, c'était jamais arrivé depuis 2007, c'était au Japon, avec la deuxième place de Randy de Punier et la quatrième place de Sylvain Guintoli, qui était alors un pilote Tech 3 avec des pneus Dunlop. Mais bon, c'était des conditions, une piste humide. Là, c'était voilà, sur le sec. Et avant ça, il fallait remonter à 1990 avec Saran et Ruggia à Laguna Seca pour trouver deux Français dans un top 5. Donc, c'est quand même assez rare. Tout à fait. C'est un superbe résultat pour les Bleus. Alors, bien évidemment, Fabio, il y a un peu de la déception parce qu'il était deuxième aux essais. C'est une Yamaha qui gagne, ce n'est pas la sienne. Donc, on peut imaginer qu'il y a quand même un peu de frustration. Fabio, au bout de 6 tours, il a commencé à avoir des problèmes de grippe à l'arrière. Il a perdu énormément de grippe. Il n'a pas été le seul. Hein. Jack Miller a été dans ce cas-là avec sa Ducati. Valentino Rossi également, qui termine 12e. L'an dernier, en difficulté, il aurait, serait peut-être tombé ou il se serait agacé, il aurait terminé 12e. Là, il s'est calmé, il a géré, il a essayé d'adapter son pilotage en utilisant davantage l'avant, en épargnant l'arrière qui glissait énormément à l'accélération. Il sort une 5e place, il termine à 3 secondes du vainqueur, c'est un super résultat. En tout cas, ça prouve qu'il a... que le travail qu'il a fourni cet hiver avec son psy, justement pour gérer ses émotions et son tempérament un peu colérique, ça porte ses fruits. C'est une place encourageante. Alors voilà, maintenant on l'a dit, c'est une Yamaha qui a gagné, c'est pas la sienne, c'est son coéquipier. Donc on verra un petit peu comment cela, ça peut l'affecter. Voilà. En même temps, dès ce week-end, ils vont se retrouver là-bas, donc ça sera intéressant de voir la revanche.
Ceci étant, il est quand même sur la moto qui gagne. Donc, c'est plutôt positif. Ouais. C'est-à-dire qu'il est dans le bon team, comme Johan. Donc, on a deux Français qui ont deux belles motos. Et ça, c'est plutôt rassurant et plutôt de bon augure pour le reste de la saison.
Comment on peut expliquer ces problèmes de pneumatiques? Est-ce que c'est les conditions qui étaient différentes des essais?
Alors ça, Bagnaia, qui a eu aussi, lui, des petits problèmes de grippe sur la fin de course, estime que les conditions étaient, tu l'as dit, différentes. On a eu beaucoup de vent l'après-midi. D'ailleurs, à un moment donné, on s'est demandé si les courses pourraient avoir lieu. Finalement, le vent affaiblit en soirée, mais la piste était plus fraîche que pendant les essais et même que pendant les tests. Il y avait peut-être un peu plus de sable. Donc, est-ce que ça a affecté les réglages? Voilà, bon, ça, c'est des paramètres et des facteurs qui vont être analysés cette semaine avant la prochaine course.
Ouais, ils vont préparer. De toute façon, en plus, c'est ce que tu disais. Là, dès le week-end prochain, on remet le couvert sur la même piste. Donc là, on va avoir confirmation ou infirmation des résultats qu'on a eus hier au soir.
Ça, alors, pour conclure sur nos deux Français, on a une question d'un internaute.
Déjà, c'est bien, vous êtes réactif, c'est très bien. Continuez.
Philippe de Nancy qui nous demande tout simplement, est-ce qu'on peut avoir un Français champion du monde cette année? Je crois que on va pas aller trop vite, mais
oui, je pense que c'est déjà ce qui a un petit peu moins participé à l'écroulement de Fabio l'an dernier, c'est que dès la deuxième de Jerez, on lui parlait déjà du titre de champion du monde. Je pense qu'il va falloir aller un petit peu moins vite en affaire, non, Michel?
Oui. Après, il est clairement un candidat au titre. Voilà, il est dans une, il a la pression qui va avec. Hein. Il est dans une équipe officielle. Il a remplacé Valentino Rossi. Il a gagné 3 Grands Prix l'an dernier. Seul Morbidelli a fait aussi bien, même si la fin de saison a été très compliquée, mais pour des problèmes qu'on connaît. Hein, une Yamaha qui était en difficulté techniquement. Donc oui, il peut. C'est un candidat au titre, mais il n'est pas tout seul. Quoi. Voilà. Quant à Johan, sur le papier, dans une équipe satellite, on n'est pas candidat au titre. Mais voilà, il peut très bien devenir le leader de chez Ducati, où il n'y a plus vraiment de patron aujourd'hui, et avoir le soutien de Dallinia pour... s'il confirme qu'il peut être leader des pilotes Ducati, il aura le soutien pour se battre devant, c'est sûr.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Président, c'est le fait d'avoir effectivement un environnement qui lui est plus adapté, et puis deux Français dans deux bonnes structures.
Oui, voilà. En tout cas, on les a vus tous les deux. En tout cas, Johan est totalement à l'aise cette année. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui deux Français qui seront, je pense, sur le devant de la scène du MotoGP, et peut-être, en effet, un premier titre de champion du monde. En tout cas, c'est tout le mal que l'on peut leur souhaiter. Et on a quand même aujourd'hui une première qui s'annonce quand même très, très bien.
On passe au top, Michel, sur ce Grand Prix.
Le top, c'est Maverick Vinales. Hein, c'est... Non seulement il gagne, mais en plus, il gagne avec la manière, on va dire. Et c'est vrai que moi, le premier, on ne l'attendait pas à dominer comme il l'a fait. Hein. Alors on sait qu'en 2017, quand il arrive chez Yamaha, il avait gagné les deux premières courses. Il s'était effondré après, donc c'est pour ça qu'on va garder un petit peu de mesure par rapport aux perspectives
Est-ce que aussi, quelque part, ce n'est pas un moyen aussi de marquer son territoire par rapport à Fabio qui arrive, tu vois, sachant que lui, maintenant, c'est entre guillemets la valeur référence du team.
Oui, alors il y a deux choses. Hein. Déjà, lui... Rossi n'est plus là, donc il prend plus de place. Je pense que c'est Rossi était, pour lui c'était pesant. Là, voilà, il se sent plus chez lui, on va dire, dans cette équipe. Il a peut-être un peu plus de soutien aussi, plus de confiance des Japonais et de l'encadrement de l'équipe. Sa vie aussi personnelle a changé. Il s'est marié. Ouais. Sa femme va être. Il va être papa. Ouais. Donc, on sent qu'il est beaucoup plus calme. Moi, pour l'avoir rencontré cet hiver à l'entraînement à Alès, justement, j'ai senti quelqu'un de beaucoup plus serein.
Apaisé, peut-être.
Voilà. En tout cas, il fait une course extraordinaire parce que très intelligente. Il est resté derrière Fabio, là encore, en pensant à la gestion de ses pneus. Il a attaqué au bon moment. Et quand il passe au bon endroit pour tout de suite faire le break et pas être rattrapé immédiatement par les Ducati, puisqu'on sait que la Yamaha, son problème, c'est de se retrouver en bagarre avec des Ducati. C'est toujours compliqué de se faire redoubler au frein, etc. Donc là, il a réussi à faire le break au bon moment et puis il a géré... Il a géré sa course. Hein, quand il double au 15e tour, il prend la tête. Il avait un dixième d'avance quand il double. Et le tour d'après, il a 6 dixièmes. Dans un tour, il fait ce break d'une demi-seconde. Et voilà, il a la victoire en poche.
Un autre top
Alors, un autre top, ouais, bah, c'est Joan Mir. Parce que Joan Mir, on ne l'a pas vu du tout aux essais. Il était en difficulté, le champion du monde en titre. Problème de sensation sur sa moto. Il se retrouve loin sur la grille. Et puis en course, et bah, il est là, il fait le boulot. Comme Vinales avec Fabio, il utilise son coéquipier pour faire un bon début de course en gérant un petit peu ses pneus.
Ouais, parce qu'on attendait plus, vu la physionomie du début de course, on voyait plus Rins que Mir.
Oui, Rins qui était...
Il était loin en plus.
Rins s'était classé quatrième en 2019, puisqu'on sait que l'an dernier, il n'y a pas eu de course au Qatar. Donc, on attendait effectivement Rins. Mais bon, voilà, encore une fois, Mir, il construit. Il ne sait pas... Il est intelligent, ce pilote. Quoi. Il n'est peut-être pas aussi brillant comme ça, mais il gère sa course entre le premier et le dernier tour. Et bon, il est mal récompensé.
Alors, il se rate ou pas sur le dernier virage?
Alors, lui, il a expliqué qu'il ne se ratait pas. Il a dû forcer pour revenir, même s'il a utilisé Rins, qui était aussi mal parti. Mmh. Parce qu'ils ont eu, contrairement au Ducati, leur all-shot device fonctionne quand même beaucoup moins bien. Donc, début de course compliqué, comme c'est souvent le cas d'ailleurs chez Suzuki. Mais en fin de course, pour avoir forcé pour revenir, son pneu arrière était, lui, bien fatigué. Donc, la seule solution... pour ressortir du mieux possible de ce dernier virage, c'était vraiment d'aller chercher loin, de redresser la moto et de pouvoir accélérer sur la partie centrale du pneu. Et bon, face au Ducati, ça ne l'a pas fait. Ouais. Mais bon, il termine quatrième à une seconde et demie du vainqueur. C'est quand même un super résultat. L'an dernier, le premier Grand Prix, il n'avait pas terminé.
Est-ce que ce n'est pas un pilote sous-coté, Joan Mir? On sait qu'à la conférence de presse avant le week-end, tous les pilotes l'ont cité comme favori au titre parce que c'est le champion en titre. Mais je ne sais pas ce que tu en as pensé, Michel. Moi, on n'y croyait pas du tout à ça. Et comme tu l'as dit, on ne l'a pas vu aux essais. On ne l'a pas cité à un seul instant comme candidat à la victoire. Et finalement, il est toujours là.
C'est un gros talent, Joan Mir. Hein. Il arrive en Moto 3, la deuxième année, il est champion du monde. Il ne fait pas de bruit parce qu'il a un profil assez discret, on va dire.
Il n'est pas charismatique, c'est peut-être ça qui lui
fait... Oui, mais en même temps, il n'est pas charismatique. Quand on le connaît un peu, il l'est quand même, parce qu'il a, il a une bonne bouille, il s'exprime bien en anglais, espagnol et italien. Mais il est dans une équipe où il n'y a pas vraiment d'ego. C'est ça aussi qui est intéressant chez Suzuki, c'est le travail qu'a fait Brivio ces dernières années avant de partir. Je pense qu'il est bien en place, mais c'est un pilote qui a un gros talent. Même en Moto 2, l'année où il arrive chez VDS, c'était compliqué parce que c'est l'année où Michael Bartolini a été écarté. Il y avait un peu des tensions dans l'équipe. Il y avait Alex Marquez qui prenait beaucoup de place. Donc ça a été difficile pour lui. Mais depuis qu'il est en Moto GP chez Suzuki, qui n'était pas non plus la moto candidate au titre tout de suite, il fait le job et il est là. Quoi. Alors c'est vrai que l'an dernier, il a gagné qu'un seul Grand Prix et que. Il est peut-être un peu déçu sur les deux dernières courses au Portugal. La deuxième course à Valence, c'est le Portugal. Mais il sera là, c'est sûr.
On enchaîne avec les flops, parce qu'on a parlé des tops, mais malheureusement, il y a aussi des flops et pas n'importe lesquels.
Je vais vous parler de Ducati en flop, alors je sais que ça va peut-être...
Ça va surprendre,
parce qu'on a quand même deux Ducati sur le podium, mais enfin bon, on a quand même une Yamaha qui gagne. Et les deux derniers Grands Prix au Qatar, c'est Dovi qui les avait gagnés, Dovizioso qui n'était pas là, qui n'est plus là, mais qu'on va peut-être voir
chez lui.
Ça, c'est la suite. Mais en tout cas, lui, il a bien dû se marrer chez lui en regardant la course, hein, parce que sans Dovi, la Ducati, elle n'a pas gagné au Qatar. Pourtant, c'est la moto la plus rapide. Encore une fois, gros boulot d'aéro. tu vas nous reparler, Alexis, après des vitesses de pointe. Une moto qui pédale, mais qui est encore confrontée. L'an dernier, son problème, c'était cette gestion avec ce nouveau Michelin arrière, d'aligner à 17 hiver, qu'il savait pourquoi ça n'avait pas marché, qu'il avait des solutions. Et là, ben, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Alors, est-ce que, comme l'a dit Bagnaia, c'était dû aux conditions particulières de la course, où la piste était différente des essais? On verra ça dimanche. En tout cas, dimanche, il faut qu'il y ait une réaction, surtout Miller, parce qu'on
peut dire que Bagnaia a fait le job quand même, parce qu'il est, il fait 16 tours en tête, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et par contre, c'est entre guillemets, c'est Miller.
Miller décevant. Alors c'est vrai qu'il est tombé aux essais. Il a dit qu'il a perdu un petit peu de confiance, et puis il a eu un gros drop de son pneu arrière. Donc c'est vrai qu'il y a des pilotes qui ont eu
Après, je te trouve un petit peu dur pour me faire l'avocat du diable sur ce flop Ducati, parce que, bon, effectivement, il y a deux motos sur le podium. Devant, c'est Vignales qui est quand même plus expérimenté et manifestement en meilleure forme que Zarco qui est encore en reconstruction et Bagnaia qui est jeune. Et Miller a eu un problème de pneu. Mais finalement, cette moto, en fait, elle est pour moi très performante. Et ce qui manquait pour gagner dimanche, c'était plus un pilote du niveau de Vignales ce jour-là. Que une meilleure moto, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, bah après le résultat, c'est le pilote et la moto, donc
il faut la thématique. Et puis le circuit, on le sait pertinemment, comme le disait Michel, les deux dernières saisons, il n'y avait pas photo, c'était la Ducati qui s'est imposée.
Ah oui, on a
et
vu.
Et là, elles sont vraiment chez elles.
On se souvient des bagarres Dovi-Marquez. Ouais.
Moi, j'ai pas le sentiment que Zarco soit en reconstruction pour le coup. Je pense qu'il a passé le cap. Il est plutôt dans sa saison, concentré. Je le sens plutôt à l'aise. Et sincèrement, je crois que ce qui lui est arrivé, l'épisode KTM, est définitivement derrière lui. Et je le sens plutôt tourné vers l'avenir.
Oui, ça, c'est sûr, c'est le cas. Mais après, il est encore début de cette phase-là, quoi.
Il le dit lui-même, il a encore une marge de progression importante avec la Ducati, puisqu'on rappelle que la Ducati, il a découvert l'an dernier, c'était une GP19, donc une moto de l'année précédente. Aujourd'hui, on parle de GP20 parce qu'il n'y a pas eu de développement moteur. Oui, donc les motos de cette année sont identiques en termes de moteur que celles de l'an dernier. Mais voilà, il dit qu'il manque encore un petit peu de confiance dans le train avant pour avoir la vivacité que peut avoir un Bagnaia sur les entrées de virage. Donc c'est effectivement encourageant pour la suite.
Bon. Avant de conclure cette page, une question de Mathieu qui nous demande sur quel circuit les Français vont être le plus en difficulté. Alors, ça ne sera pas les mêmes certainement pour Johan et pour Fabio. C'est lié aux caractéristiques de leur moto.
On pourra poser la question à Johan. Il a parlé du Sachsenring, qui est le circuit le plus sinueux, le plus court du championnat. Donc, c'est vrai que
De toute façon, ça correspond à la physionomie de la course. Au Qatar, ils sont à l'aise dans les lignes droites, et dès que dans le sinueux, comme le disait Michel, en un tour, il met 6 dixièmes à tout le monde, Vignales, et voilà, c'est là où ils ne peuvent pas suivre.
Après, pour ce qui concerne Fabio, ça va dépendre un petit peu des performances de la Yamaha. L'an dernier, les grosses difficultés ont été sur des circuits où il y avait peu de grippe, comme Brno, des circuits très rapides comme l'Autriche. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de l'évolution aussi de la moto et de comment cette gestion pneumatique, qui, on le voit encore, c'est aujourd'hui la clé de la réussite et de la performance. C'était le cas l'an dernier et ça l'est toujours cette saison.
Ou de la contre-performance pour le coup.
Ou de la contre-performance. c'est vrai que ça tient à pas grand-chose. Et aujourd'hui, voilà, il faut avoir les bons réglages. Et puis après, il faut avoir un pilote qui va être capable de s'adapter, d'avoir l'intelligence de se dire « bon, ben là, si je fais comme ça jusqu'au bout, ça ne va pas le faire ». Donc il faut que j'arrive à utiliser plus, faire la différence plus sur les freins parce que je ne peux pas accélérer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le MotoGP, il faut vraiment être...
La finesse.
Ouais. Le président parlait de contre-performance. Il y en a une autre belle aussi, c'est Honda, ce week-end.
Ah ben oui, Honda... on va être un peu...
Indulgent
avec Paul Espargaro. C'était sa première course avec cette moto. Bon, il termine 8e. Il n'est pas si loin que ça à l'arrivée. Il doit être à...
Paul Espargaro, il faut qu'il profite des Grands Prix sans Marquez, je dirais, parce qu'après, il aura la pression.
Encore une fois, Nakagami est tombé, Alex Marquez est tombé, Bradel termine 11e, bon, il est remplaçant, pilote d'essai, mais en tout cas, une fois encore, on voit que sans Marquez, le HRC est perdu. Alors, moi, j'ai été surpris, je m'attendais à voir Marc débouler au Qatar, on l'a vu s'entraîner avec la Honda...
FCV 213, là, S.
On l'a vu s'entraîner à Barcelone.
Il y a peu d'infos qui sont sorties en fait de ces tours.
De toute façon, chez Honda, c'est quand même, ils ont une communication assez particulière. Après, on sait aussi qu'il y a des, Il y a eu des tentatives de procès entre Marquez et Dr Mir par rapport à l'opération. Donc là, je pense qu'on lui a dit, si les médecins lui ont dit, il ne prend pas de risque, je pense que là, il est prêt à les écouter. Il sait que, je pense que son bras, il aurait certainement tenu le coup. On l'a vu rouler, il aurait pu rouler le samedi, mais je pense qu'on lui a dit, voilà, si jamais tu tombes et que tu te reblesses dessus, ça peut être un drame absolu. Donc je pense que, voilà, il vaut mieux qu'il rate. En tout cas, les deux premiers Grands Prix.
Et justement, au travers de cette décision, est-ce que ce ne sont pas aussi les médecins qui se sont couverts en disant à Marquez, non, nous, on ne cautionne pas le fait que tu reviennes aussitôt?
Il a changé d'équipe de chirurgien. Ah. Déjà, il a laissé tomber la clinique d'Exus de Barcelone avec le docteur Mir. Et maintenant, il est suivi par des médecins, enfin des chirurgiens à Madrid, une clinique de Madrid. Je pense que là, voilà.
Parce que c'est ce qu'on a reproché au docteur Mir, c'est de l'avoir laissé revenir tout de suite à Jerez.
Je pense que la décision, c'est pas lui qui l'a prise, hein. C'est Marquez qui l'a prise.
Non, mais après, les médecins, il aurait jamais dû avoir le feu vert pour rouler en Espagne.
Donc, le test sur le circuit.
J'imagine. Non, mais même, un chirurgien qui opère, enfin, pour avoir parlé avec des gens qui sont dans le milieu médical, une opération comme il a subi, rouler 4 jours après, c'est complètement aberrant. Ne serait-ce que l'anesthésie générale, enfin, même s'il y a des précédents. Avec Lorenzo,
oui, c'est ce que j'allais dire.
Mais quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, enfin là, voilà, le problème, c'est que si, je pense que si aujourd'hui il chute, il se recasse le bras, c'est terminé.
Ouais, sa carrière est morte
et peut-être même plus grave que ça. Peut-être que l'usage de son bras serait un problème pour la suite. Il a 27 ans, Marquez, il a quand même la vie devant lui.
Donc voilà, et puis sur les résultats, on le disait, pas de KTM aussi dans les 10 premiers. Par contre, le côté positif, c'est Aprilia, Aleix Espargaró, qui finit d'ailleurs devant son frère Paul au classement. Donc ça, c'est.
Oui, il termine sixième. Donc c'est pas la première fois qu'on a une Aprilia sixième. On avait eu en 2003 Colin Edwards à Suzuka, et puis Iannone en Australie, c'est le plus récemment en 2019. Et Espargaró avait déjà fait sixième à Aragon en 2017 et 2018. Par contre, c'est la première fois depuis qu'on est passé au quatre temps et à MotoGP en 2002 qu'il y a un si faible écart entre l'Aprilia et la moto qui gagne. KTM, un petit mot sur KTM. Ouais. C'est vrai qu'ils ont été en difficulté et ils l'ont été depuis les tests. Alors,
pourquoi ?
Losail, c'est un des rares circuits, finalement. On sait que Pedrosa et le test team, ils ont énormément roulé en Europe. Sur tous les circuits où l'an dernier, il y a eu des courses, quasiment. Parce que l'an dernier, on a eu... C'est vrai que l'an dernier, les KTM ont brillé. Ouais. On ne s'attendait pas là. Mais il y a eu un calendrier hyper réduit sur quelques circuits où Pedrosa avait roulé. Et là, quand ils vont se retrouver sur des circuits où il n'y a pas eu de test, et ben là, il y a quand même... Il y a un manque de référents.
Paradoxalement, la KTM, l'an dernier, elle était quand même aussi appréciée et valorisée par la puissance de son moteur. On a vu plus d'une fois qu'elle tenait...
Elle marchait bien, dans la ligne droite.
Ouais, non, mais pas tant que ça, en fait. Hein. C'est plus un problème d'exploitation de l'accélération. Ouais.
De quand on pense à notre équipe française, qui doit...
Tech 3.
Hein, qui doit travailler.
Qui tient difficile.
Petrucci est tombé direct.
Tout à fait.
Président, vous l'avez apprécié, ce premier Grand Prix ?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas eu la chance de pouvoir le vivre en direct, mais en tout cas, j'ai pu le regarder hier soir. Et donc, en effet, ça a été une course fantastique. On n'a pas vu le temps passer. On avait quand même ces deux Français pendant quelques tours, deuxième et troisième. On sent que les machines, les performances sont très resserrées. Je pense que le travail qui est réalisé par la Dorna pour faire en sorte d'organiser ce Grand Prix avec la FIM, ces Grands Prix, est compliqué, hein, parce que la crise sanitaire, elle nous touche. Et dans le quotidien, organiser des courses internationales, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Et moi, je félicite la Dorna et la FIM, et évidemment tout le staff, d'avoir su créer cette bulle sanitaire autour des Grands Prix. Parce que grâce à eux, on a la chance d'avoir de très beaux Grands Prix. Et puis, on va avoir une très belle saison qui a débuté ce week-end. Et c'est pas simple, parce que c'est beaucoup de contraintes, quand on connaît un petit peu la vie des teams. C'est une bulle sanitaire, ça veut dire qu'on est enfermé, qu'on n'a pas le droit de sortir, qu'on est quand même contraint. Et donc, vivre ça pendant des semaines et des semaines, et ça va être quasiment toute la saison.
Alors après, il y a ceux qui voient du positif. Il y a des pilotes, notamment Zarco, j'ai échangé sur le sujet avec lui. Alors c'est sûr que le côté entre guillemets festif, en tout cas là, les échanges qu'on peut avoir, ils sont plus là. Par contre, lui, moi je suis à fond sur mon job, parce
c'est clair, pour le coup, faire, voilà.
Y a pas de façon, sur le circuit, il n'y a pas
de dispersion,
il n'y a pas de distraction, les relations aux médias sont limitées aux télés ou à des conférences Zoom avec les journalistes de presse écrite.
Il faut l'accepter, il faut l'anticiper, parce que c'est pas, à mon avis, simple à vivre sur un temps long. Et en tout cas, moi, je me félicite d'avoir pu visionner un si beau Grand Prix. Enfin, voilà.
Alors justement, le Grand Prix, il a fait une audience superbe sur Canal+, puisqu'il était diffusé en clair, ouais. 1,4 million en moyenne, donc avec des pics à 1,6 million. Mmh. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Président, maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur votre rôle, parce que vous avez pris vos fonctions en fin d'année. Hein,
Octobre.
Voilà, fin d'année dernière. Et tout de suite, vous avez posé un cadre en disant que vous vouliez relancer la filière vitesse française. Comment vous allez vous y prendre, justement?
Alors, ce n'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, on nous fait souvent la remarque de nous dire, écoutez, en France, Fabio, Johan, Lorenzo, hein, qu'on n'a pas cité en Moto 3, n'ont pas participé à vos épreuves de championnat de France. Donc, oui et non. C'est-à-dire que malgré tout, lorsqu'ils ont débuté, ils ont débuté vraiment en France. Et c'est vrai que pour Zarco, il est parti très rapidement en Espagne, Fabio également, et Lorenzo ensuite, pour participer à des épreuves nationales espagnoles. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on développe ce que l'Espagne a réussi à faire. Ce sont des écoles de mini-moto, c'est-à-dire qu'il y ait le maximum d'écoles labellisées FFM qui utilisent des pistes de karting, donc que nos jeunes débutent à travers les circuits de karting, que l'on mette en place également une pyramide basée sur le niveau régional, c'est-à-dire qu'au niveau de nos ligues régionales, on a 13 ligues régionales, eh bien on ait un championnat de ligue réservé à nos jeunes pilotes sur des circuits de karting, et puis enfin qu'on bascule vers le championnat de France, 25 pouvoirs dans un premier temps, et puis l'objectif Grand Prix ensuite. Mmh. Donc ça ne va pas se faire sur un temps court, je pense qu'il faut s'inscrire sur un temps long. On a de très bons pilotes français. Hein, moi, ce que je souhaite, c'est que nos meilleurs pilotes français restent le plus longtemps possible dans la filière française, parce que si tous nos meilleurs pilotes roulent ensemble, eh bien, il va y avoir une émulation, c'est ce qui fait la force de l'Espagne. Et il faut que cette émulation, on la conserve au niveau national. Et puis, à un moment, ils vont en Espagne, oui, parce qu'ils participent à l'European Talent Cup, au CEV, mais ce sont des championnats d'Europe et c'est un championnat du monde. Donc, il ne faut pas confondre le championnat national espagnol et les championnats internationaux que sont l'ETC et le CEV. Donc l'idée absolue, c'est de faire en sorte que nos meilleurs pilotes français puissent franchir les Pyrénées avec le meilleur niveau technique, le meilleur bagage technique pour être performants dès leur première année en ETC. Donc alors, une pyramide plus large, qui ira naturellement plus haute. Donc aujourd'hui, un temps sur le développement des écoles, un temps sur le développement de l'échelon régional à travers l'utilisation plus massive des pistes de karting.
Alors, c'est vrai que le Covid n'aide pas beaucoup au déplacement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, à l'heure de l'Europe, avoir des échanges et des collaborations entre fédérations nationales, européennes, justement, pour alors mettre à disposition peut-être des circuits, organiser des courses communes? Est-ce que c'est alors, pas envisageable?
Moi, je rencontre mes homologues italiens et espagnols. D'ailleurs, l'idée, c'est d'aller voir ce qu'ils font pour comprendre comment est-ce qu'on pourrait demain avoir autant de pilotes en masse sur les Grands Prix. Donc oui, il y a des collaborations. Il y a des épreuves internationales. Le CEV, c'est une épreuve européenne. Donc nous, on fait aussi des courses franco-italiennes en motocross. L'idée, c'est en effet de créer de l'émulation pour nos plus jeunes. Donc c'est ça l'objectif. Et ça passera par la base. La base, ce sont nos clubs. Il faut qu'on duplique ce que l'on réussit à mettre en place en motocross, par exemple, qui est une très belle filière avec des écoles, un circuit, de la récurrence sur les entraînements, et puis faire en sorte qu'il y ait de l'émulation. C'est-à-dire que quand tous nos meilleurs pilotes français jeunes rouleront sur les pistes de karting, ils sauront demain passer, franchir le cap de l'European Talent Cup. J'ajouterais qu'on a mis en place avec la direction technique nationale de nouveaux collectifs. On a un collectif 25 Power, donc pour les jeunes qui roulent sur des pistes de karting. Donc on essaie d'identifier les meilleurs jeunes tranche d'âge par tranche d'âge. On a mis un collectif également en place sur la catégorie Objectif Grand Prix avec Alexis Masbou qui suit les 4-5 meilleurs pilotes pour les prendre en stage sur 2-3 sessions de stage avec ces meilleurs pilotes français pour justement les former. Et en parallèle, on travaille sur un collectif 600 puisque avec le team GMT 94 et Yamaha, on travaille sur une wildcard au Superbike. Donc il y a un travail de fond qui est mené. Il y a un temps long qu'il faut assumer. Il faut repartir de la base. Non pas qu'hier nous ne faisions rien, nous travaillons, mais il faut vraiment que nous, fédérations, nous accompagnions la création d'écoles labellisées, la création de structures qui permet à nos jeunes...
Recréer la base, en fait, de la
recréer une pyramide.
Il y a quand même pas mal d'initiatives individuelles.
Belles initiatives individuelles, tout à fait.
Je pense à Schlumberger.
Sébastien fait un très beau travail.
Il y a des initiatives individuelles, mais
c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a avec Mini-GP en Normandie, on a aussi en Occitanie un championnat de ligue. En PACA, on a aussi un autre Mini-GP qui se construit. Donc l'idée, c'est de mettre tout ça en cohérence. Parce qu'en effet, il y a des initiatives entre guillemets privé de club. Sébastien Schlumberger en est vraiment l'exemple absolu. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller le voir sur site. Il fait vraiment du très, très bon travail. C'est comment faire en sorte qu'il y ait une cohérence d'ensemble, hein, qu'il y ait un travail commun. Ce n'est pas simple, hein, parce que ça ne se décrète pas, ça se construit. Et donc, c'est tout le travail que nous menons actuellement. Moi, je crois qu'on peut y arriver. On peut obtenir des résultats. Il n'y a aucune raison que nos pilotes français ne puissent pas s'exprimer en France. Hein, avant de franchir le cap du championnat d'Europe. Donc c'est à nous. Alors évidemment, l'Italie, l'Espagne a une industrie, hein, c'est clair, notamment moto, mais nous avons aussi une industrie. Je veux dire, on a Total, on a Michelin, on a Motul, on a de très très grands acteurs forts de la filière sport mécanique. Donc c'est à nous de se fédérer, de vendre un pré-projet, un projet construit avec, encore une fois, c'est une pyramide. Hein, il faut s'inscrire sur un temps long et ne pas avoir peur de repartir de la base. Hein, il faut qu'on se réapproprie les pistes de karting, comme le font les Espagnols et nos amis italiens.
Vous avez parlé de mini-moto, il y a un championnat international qui a été lancé à l'initiative de la Dorna. Comment ça va se mettre en place en France cette année, ce championnat?
Écoutez, nous, on a répondu immédiatement, c'est-à-dire qu'on a dit, on a répondu à la FIM et à la Dorna en disant qu'on était partant. Hein, on a même trouvé déjà un calendrier de plusieurs dates sur tout le territoire français. Donc c'est Mini-GP World Series, donc Mini-GP France avec une seule marque de machine. Moi, je crois à ce concept. C'est un concept qui est packagé, qui est très simple en termes de lisibilité pour les parents notamment. C'est aussi un prix raisonnable. Bon. Donc globalement, ces coupes de marque qu'on a connues par le passé, hein, on avait la coupe Conti, nous, hein, il y a quelques années. Alexis Masbou a roulé sur une coupe Conti, enfin, il y en a pas mal.
Fabio, bien sûr.
Donc on reprend un petit peu cette direction-là, et moi j'en suis très 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 heureux. Donc on s'est approprié le sujet. Hein, moi je crois qu'on pourra demain le dupliquer aussi au niveau régional. Donc je suis assez positif. Hein. On se verra dans quelques temps, dans 3-4 ans. Mais j'espère qu'on aura une vingtaine d'écoles labellisées moto, hein, et qu'on aura une vision cohérente de nos différents championnats et surtout des plateaux ensuite au niveau national qui seront vraiment de très très belles factures.
Ok, merci Président pour ces explications. On suivra ça, ça sera le fil rouge de votre premier mandat,
bah,
on va dire.
C'est important, hein, en tout cas. Voilà.
Et puis du coup, on va passer à la chronique d'Alexis. Alexis, qu'est-ce que tu nous as préparé plus
exactement ? On va parler un petit peu des autres catégories qui ont eu lieu ce week-end au Qatar, à commencer par le Moto 3, avec la victoire de Jaume Massia, quatrième saison. Il revient sur une KTM du team Red Bull. Et voilà, il confirme qu'il fera partie des favoris pour le titre, mais ce n'est pas lui qui nous a le plus ébloui ce week-end, c'est plutôt son coéquipier Pedro Acosta, qui est rookie. Mm-hmm. Voilà, première course en mondial pour lui, et il termine sur le podium, deuxième. Sacrée performance, hein. La dernière fois qu'un rookie a fait aussi bien, c'était Chanonchu, c'est turc, hein, vous m'excuserez, ouais. qui avait gagné à Valence pour sa première course, où il avait carrément gagné. C'était déjà d'ailleurs le team d'Aki Ayo. Et puis, pour compléter le podium, Darren Binder, qui lui aussi confirme qu'il faudra compter sur lui cette saison, un podium en moins d'un dixième, donc une superbe course Moto 3 au Qatar. En Moto 2, Sam Loves, il n'a pas tremblé, il a confirmé ses excellents essais, il a dominé tout le week-end et il s'impose en patron avec plus de 2 secondes d'avance sur Rémi Gardner. Rémi Gardner qui sera aussi, je pense, au rendez-vous cette saison. Voilà, solide deuxième, belle remontée en course.
Encore un pilote Ayo.
Encore un pilote Ayo, super week-end pour Aki Ayo.
Sam Love, c'est l'année ou jamais, non, quand même. Ça fait un moment qu'il passe à côté quand même.
Hein. Ouais, enfin l'an dernier, il est revenu depuis qu'il est chez VDS. Lui aussi, il fait partie de ces pilotes pour qui devenir père de famille. Il y a ceux qui prennent 2 secondes et il y a ceux qui les gagnent. Il fait partie de ceux qui les gagnent.
Et puis la troisième marche du podium, elle est revenue à Fabio Gianantonio qui est venu battre Marco Bezzecchi sur la ligne et qui a rendu un bel hommage à son ancien patron disparu, on est de pensée pour lui, Fausto Gresini. Un petit mot sur les rookies aussi en MotoGP dont on n'a pas parlé. On a 3 rookies cette année, tous les 3 sur Ducati. Et Enea Bastianini qui s'est offert un joli top 10 pour sa première course en MotoGP. Belle performance de l'Italien du team Avintia. Et Jorge Martin aussi s'est montré, du moins en début de course, un départ canon. Premier départ en MotoGP, il était 14e sur la grille, il est 4e au premier virage.
Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que, comme le disait Michel, c'est l'électronique Ducati qui est très performante?
Alors, c'est sûr que le all-shot design de Ducati est performant.
Ah, oui, voilà. Après, est beaucoup plus performant que chez Yamaha, puisque Franco Morbidelli, lui, il a fait toute sa course avec l'arrière enfoncé, une course d'amortisseur réduite à sa plus simple expression.
Et d'ailleurs, un problème dont ils ont eu connaissance sur la grille avant qu'ils partent, et ouais, ils n'ont pas pu le résoudre, voilà. Il a dû partir comme
Il a cassé la course comme ça, hors des points. Donc,
Le record du week-end, on l'a évoqué.
Il est français
Il est encore français, Johann Zarco, premier pilote à passer la barre des 360 km/h en MotoGP. Ça commence à faire vite, 362,4 en FP4. Sachant que les meilleures vitesses de pointe sont attendues au Mugello, ça promet. Est-ce qu'on va pouvoir aller...
Ce qui est surprenant, parce qu'au Mugello, en plus, la ligne droite, elle remonte un peu.
Ça fout la trouille, parce que Mugello, on se souvient, Marquez, au bout de la ligne droite, est-ce qu'on a une bosse? Ça déleste quand ça retombe
Nakano
les plaquettes. Nakano, c'était un problème de pneu.
Oui, mais enfin, c'est lui. Le genre d'accident qui va venir maintenant.
Nakano, c'était au milieu de la ligne droite. Marquez, quand il tombe, il est où?
Et Piro aussi. Je ne sais pas si c'était Piro. Comme Marquez, il avait eu très chaud.
Mais sincèrement, avec ces vitesses qu'on atteint maintenant, il va certainement se poser un jour ou l'autre le problème de la résistance et de l'échauffement des pneus.
Après, ces problèmes de sécurité, on les a. Enfin, c'est quelque chose qui est récurrent. Rappelle-toi qu'on est passé au 800 parce qu'on trouvait que les 990 allaient trop vite. Finalement, les 800 ça aussi. Donc c'est vrai que
il faudra réglementer pour diminuer la vitesse à mon avis.
De quelle manière?
C'est toujours compliqué.
En tout cas, chez Alexis, on assure qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Une nouveauté cette année, vous n'en avez peut-être pas aperçu, mais au niveau des tracks limites. Alors, on parle beaucoup des pilotes qui ne doivent pas mordre sur la partie verte, sortir de la piste sous peine d'être pénalisés. On a eu beaucoup de pénalités l'année dernière dans les trois catégories.
Fabio a frôlé la correctionnelle d'ailleurs, il a été averti.
Il a eu un avertissement en course. Et puis on se souvient surtout qu'à Misano, il avait perdu le podium à cause de ça. Alors auparavant, c'était surveillé par tout un tas de caméras hyper précises. Ils ont changé de système. Maintenant, il y a des capteurs de pression directement implantés dans le sol, dans le circuit. Donc, quand un pilote mord au-delà du vibreur, ça s'allume directement. Donc, il n'y a même plus de jugement humain derrière. Mmh. C'est encore plus efficace.
Comme au tennis pour le LED de l'engagement.
Exactement.
Ouais, mais si tu passes la roue avant, ça ne détecte pas du coup.
Si elle touche pas
juste en roue arrière, sur le vibreur.
Il ne faut pas poser ses roues.
Il ne faut pas poser ses roues, tu vois. Exactement. Non, mais quand tu coupes une chicane, tu passes l'avant, ça peut fonctionner quoi. À mon avis, il va y avoir des
en tout cas, il y a des futures polémiques.
Ouais, il n'y a pas eu de soucis.
Il n'y a pas eu de soucis non plus avec la météo, mais ce n'est pas passé loin. On a eu un dimanche très venteux. Et on se souvient surtout qu'il y a 10 jours, pendant les essais hivernaux, il y a une journée qui a été complètement gâchée à cause du sable. C'est un problème un petit peu récurrent au Qatar. On se souvient aussi que la course avait eu lieu le lundi, en 2009, à cause de la pluie. On croise les doigts que ce week-end, on ait un Grand Prix qui ait bien lieu dimanche.
Il y a eu des séances de qualification annulées aussi à cause d'inondations.
Et puis on va terminer avec un anniversaire, celui de la Dorna. Ça fait 30 ans que Carmelo Ezpeleta est à la tête des Grands Prix. 1992, avec une belle réussite. Il a eu beaucoup de travail depuis l'année dernière avec la crise sanitaire. On sait qu'il vient de faire vacciner tout le paddock grâce au Qatar.
C'est quasiment tout le paddock.
Il y a des récalcitrants.
C'était pas obligatoire.
On sait que Marquez a fait l'aller-retour pour aller se faire vacciner.
Un petit coup de com'.
En tout cas, cette situation, elle n'est pas évidente, notamment pour tous les promoteurs avec qui la Dorna travaille pour organiser des grands prix à huis clos. Président en France pour les promoteurs, pas seulement Claude Michi en MotoGP, mais de toutes les courses, cette situation, notamment le FSBK ce week-end qui était à huis clos, c'est pas évident à gérer.
Non, c'est compliqué évidemment. Donc nous, on a réussi à obtenir l'accord du ministère des Sports et ensuite de la préfecture de la Sarthe. Et on a travaillé avec l'organisateur, donc la CEO, pour organiser cette ouverture du championnat de France Superbike à huis clos, qui a été d'ailleurs un très très beau succès en termes de nombre d'engagés, en effet. Oui, c'est compliqué. Hein, c'est extrêmement compliqué. Ce qui est très difficile, c'est qu'on doit toujours se projeter à 2 mois, puisque nous, on dépose nos dossiers, enfin, nos clubs déposent des dossiers pour des manifestations. Enfin, il y a 2 mois d'instruction de dossier. Et donc, il faut qu'on se projette aujourd'hui sur les manifestations du mois de mai, du mois de juin. Et dans un temps incertain, on ne sait pas s'il y aura ou pas des spectateurs, on ne sait pas s'il y aura des jauges, si on est autorisé en spectateur, on ne sait même pas si on pourra organiser. Donc, il y a un instant T qui est l'instant où on engage les frais, et beaucoup de frais. Et c'est là que c'est compliqué pour nos clubs. Donc nous, aujourd'hui, on apporte un soutien massif à tous nos clubs organisateurs. C'est vraiment l'objectif, parce qu'il faut qu'on ait un calendrier à offrir à nos pilotes. En vitesse, on a la chance d'être sur un circuit fermé où l'économie générale de la manifestation peut se baser sur les engagements des pilotes, hein, puisque ce sont les pilotes qui font l'économie de la manifestation. Donc on peut organiser sans spectateurs, en tout cas en championnat de France. Et donc on a bon espoir de pouvoir organiser notre championnat de France Superbike, mais également les Coupes de France Promosport cette année, même si c'est vrai que ce temps est vraiment difficile et pesant.
Oui, puis c'est compliqué de se projeter compte tenu de la situation dans 2 mois. On ne sait pas comment elle aura évolué.
Alors on travaille beaucoup. On travaille beaucoup avec les organisateurs de manifestations internationales, parce qu'au-delà de l'accueil des spectateurs, il y a aussi l'accueil des participants. On a parlé de la vaccination des pilotes, mais il faut créer une bulle sanitaire. S'il n'y a pas de bulle sanitaire, on part sur une septaine de tous les pilotes, de toutes les équipes, etc., etc., des journalistes. Donc il y a vraiment un travail considérable qui est mené par tous les organisateurs. Moi, je tiens à les féliciter, parce que c'est vraiment beaucoup de difficultés, beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. On travaille avec eux. Hein. Nous, on est en relation avec nos amis de l'automobile, avec la FFSA, pour travailler sur une vision cohérente des sports mécaniques en France. On a une réunion prochainement en visio en fin de semaine. Claude Michy est évidemment au cœur de ce travail avec la CO. Et je pense que l'objectif, c'est évidemment de faire en sorte qu'on ait un Grand Prix de France mi-mai, parce que ça serait quand même très frustrant d'avoir d'aussi beaux champions et de ne pas pouvoir les accueillir
à domicile. Ça, c'est clair.
A priori, on aura un championnat nettement plus cohérent, en tout cas, que ce qu'il a été l'an dernier, même si on peut avoir toujours des surprises de dernière minute, puisque, a priori, Carmelo Spelletta a l'assurance de tous les promoteurs d'organiser leur épreuve, même à huis clos. Donc, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, c'est pour ça qu'on a eu en fait, un championnat réduit sur quelques circuits qui pouvaient jouer le jeu. Et là, cette année, il y a des garanties.
Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on a la chance sur le Grand Prix vitesse d'avoir une certaine forme de calendrier qui est quasi définitif ou qui est définitif, ce qui n'est peut-être pas aussi simple sur d'autres championnats du monde. Hein, je pense on avait un sidecar cross par exemple qui a été annulé et qui devait être organisé à Brou. On a d'autres épreuves internationales qui devaient être organisées en avril et au mois de mai qui sans doute peut-être n'auront pas lieu. Je parle évidemment pas du Grand Prix, mais je parle du trial et du mondial de sidecar.
Après, il peut y avoir aussi des problèmes de circulation. Quand on est sur un championnat international, on peut très bien avoir des frontières qui se ferment. Hein,
exactement. C'est toute la difficulté. Alors, je ne suis pas inquiet pour le Grand Prix parce qu'en effet, il y a une bulle sanitaire compte tenu des enjeux qui ne pose aucun problème. C'est un peu plus difficile sur des championnats qui sont moins médiatisés. On a un championnat de France jeune motocross 65-85, des jeunes de toute l'Europe. Le problème, c'est pas vraiment le huis clos, c'est comment faire en sorte pour être certain que ces jeunes puissent venir en France. Et donc, ça veut dire respecter la septaine en arrivant en France. Bon, oui, les transferts inter-pays sont évidemment très compliqués. J'ajouterais, si vous me permettez, cher Alexis, il y a quand même un pilote français en Moto 3. Hein, première course, Rocky.
Lorenzo Felon
qui a fait sa première course en Moto 3 et qui, j'espère, constituera l'avenir de la moto française. Et donc, on lui souhaite une belle saison. C'est sa première saison. Je crois qu'il ne faut pas lui mettre de pression. Il est vraiment là pour apprendre.
Il a un contrat de 2 ans, d'ailleurs.
Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut laisser grandir sereinement, tranquillement et voir tout ça l'année prochaine.
On va passer aux questions parce qu'on est déjà un peu long. Je sais que vous êtes nombreux à être derrière les écrans, mais il faut tenir le temps. Donc on va passer directement aux questions s'il y en a, Alexis. Je crois qu'il y en a pas mal.
Une petite question de Thomas qui nous demande quid de l'accompagnement financier des jeunes pilotes français. On sait que la FFM aide tous les ans un certain nombre de pilotes. Ouais. Quels sont-ils? À quelle hauteur?
Alors ça dépend, il y a une grille qui a été revue d'ailleurs cette année. On essaie de tenir compte du projet sportif des pilotes, donc on accompagne en European Talent Cup et on accompagne aussi en en CEV junior pré-moto 3 donc en Espagne, hein, sur le championnat du monde. Donc on accompagne 3 ou 4 pilotes dans ce cadre-là. On accompagne aussi d'autres jeunes pilotes sur le Super Sport 300, sur le Super Sport 600, puisqu'on a la chance d'avoir aussi des pilotes qui performent dans ces catégories. Il nous arrive aussi d'accompagner des teams. Hein, le team de Christophe Guyot en Super Sport 600, on l'accompagne. Le team de Flambeau, on l'accompagne également. Donc on essaie d'avoir une vision cohérente du dispositif, d'où l'importance aussi de construire un projet avec le collectif
oui, pour nourrir place, toutes ces
pour justement qu'on essaie d'alimenter et travailler ensemble. Après, la fédération ne peut pas financer les saisons de tous nos sportifs français. On a une quinzaine aujourd'hui de jeunes qui participent à des championnats d'Europe, championnats du monde, hein, sur toutes les catégories vitesse. Je ne parle que vitesse. Les saisons en vitesse représentent une certaine somme. Ça coûte relativement cher. Donc nous, notre travail à nous, c'est de faciliter, c'est de participer, c'est d'accompagner. Mais on ne peut pas se positionner comme étant la structure qui finance une saison. Ce n'est pas possible. Hein. L'objectif, c'est par contre être là au moment où il faut pour passer un cap, pour progresser.
Quel est votre regard sur l'endurance qui s'est énormément internationalisée ces dernières années? Voilà, un championnat qui prend de l'ampleur, un beau championnat, mais qui de fait offre beaucoup moins de place aux pilotes français. On sait que c'est un championnat qui permettait à beaucoup de pilotes de vitesse français de vivre tout simplement. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de teams officiels qui recrutent des Français. Ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Oui, alors tout dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Moi, je serais tenté de dire que le fait... D'abord, l'endurance était vraiment l'ADN française et la culture moto française. Et donc, c'est plutôt positif qu'on ait réussi à franchir le cap du territoire pour l'internationaliser. Hein. Et donc, ça, globalement, avoir des champions du monde français, parce qu'on a cet ADN-là, c'est très bien. C'est aussi une opportunité. Alors, évidemment... que peut-être il y a moins de pilotes français. Ceci étant, on a quand même la chance de retrouver beaucoup de pilotes du championnat de France Superbike.
On a perdu un recordman des victoires aux 24 heures du Mans, le champion du monde en titre Étienne Masson, Kenny Forêt qui se retrouve sur une position de quatrième pilote sans savoir vraiment s'il va rouler.
Mais je vous rappelle quand même que l'an passé, on a eu un team français qui est champion du monde.
Qui est aujourd'hui franco-japonais.
Oui, encore une fois, c'est... Bon, il faut, je crois...
Non, mais ça va, bien sûr, dans la logique de l'évolution de ce qu'on disait de l'internationalisation. Mais ce que dit Alexis...
Il faut quand même souhaiter que l'endurance devienne...
Oui, international, bien sûr.
Plus un championnat s'ouvre, et plus globalement, lorsqu'on gagne le championnat du monde, si c'est un vrai championnat du monde, eh bien... vous avez un titre qui rayonne et qui, comment dirais-je, vous permet de vous positionner. Ça ne veut vraiment pas dire que ceux qui ont été champions du monde par le passé, ce n'est pas le cas. Je dis juste qu'en effet, aujourd'hui, on est sur une logique un peu plus internationale. Tant mieux, je pense, parce que ça permet de sauver aussi nos épreuves.
Hein, oui, et puis c'est aussi un moyen d'attirer les constructeurs, de faire en sorte que l'industrie s'investisse dans la discipline.
La preuve, c'est que nos 52 teams aux 24 heures du Mans, avec une trentaine, je crois, de teams permanents, bon, on se professionnalise.
Allez, on va partir.
On remercie nos internautes. D'ailleurs, tous nos internautes qui ont posé une question ce soir ont gagné ce t-shirt de la marque Saint.
Sympa.
Donc voilà, on vous envoie ça très bientôt. On rentre en contact sur les réseaux.
Alors justement, puisqu'il y a des cadeaux, on va terminer cette émission. On est désolé, on a débordé un petit peu. Je parle surtout pour la régie. Justement, par une autre forme d'obtenir des cadeaux, à savoir le concours, le jeu concours pronostic MotoGP, puisqu'on va faire chaque semaine, vous aurez la possibilité eh bien, de participer à ce jeu. La question est très simple. Il faudra nous donner le poleman. Et le podium. Donc ça, c'est très simple. Donc,
c'est très simple.
La démarche en elle-même est très simple. Après, effectivement, dès demain, vous pouvez aller sur les sites concernés et donc vous postez votre réponse. Donc on le rappelle, le poleman et le podium de la course à venir. Donc le podium et la course à venir, c'est celle du Qatar, puisque dès dimanche prochain, on recommence, on en a parlé tout à l'heure, on sera de nouveau à l'Oseille. Donc on va faire un petit tour de table. Président, c'est le moment de vous mouiller. Le poleman et le podium.
Fabio Poleman, je verrai bien Poleman la semaine prochaine. Et puis moi, je prends mes rêves pour des réalités. Je verrai bien une victoire Zarco, deuxième Mir et troisième Fabio.
D'accord, donc deux Français sur le podium. Michel, faudra réviser les statistiques pour voir depuis combien de temps c'est pas arrivé. Alexis.
Là, j'aurais dû réfléchir avant. Poleman, j'aurais eu aussi envie de dire Fabio, mais on va changer, on va dire Miller. Podium.
Je note pour Alexis.
Alors, s'il faut le podium dans l'ordre.
Tant qu'à faire.
Ouais, allez. Fabio. Mmh. Fabio, Miller, Morbidelli.
D'accord.
Grosse cote là.
C'est Michel.
Ouais, moi je pense que c'est une Ducati qui va gagner. Ah. Donc, et puis,
qui va faire la pole aussi.
Tant que faire, allez, un petit billet sur Jojo.
Johan, voilà. En victoire.
Et puis Fabio sera sur le podium.
Ouais, mais à quelle place? Parce que ça, c'est facile de le dire.
Je suis pas Madame Irma non plus. Non, allez, tu veux un podium?
Ouais, allez, prends des risques.
Allez, je prends des risques. Alors, Zarco, Miller, Quartararo.
D'accord. Ok. Et le poleman, tu ne nous l'as pas donné?
Bah, Zarco.
Zarco aussi. D'accord, il fait coup double, Johan.
Allez.
Bon, allez, moi, je vais dire Miller en pole. Et puis, je vais aussi suivre une constance, une Ducat. Bagnaia, moi je pense qu'il peut gagner.
Ouais. Et il y en a beaucoup qui peuvent gagner.
Ouais, Bagnaia, Vinales et Johan. Voilà. Et Fabio 4. Allez. Ok, ça vous va? On fait les comptes la semaine prochaine.
Rendez-vous dans une semaine.
Voilà, donc on est désolé, on a débordé largement. C'est la première, fallait bien qu'on se pose. J'espère que l'émission vous a plu. Donc vous le savez, vous votez, vous postez vos pronostics, plus exactement sur les pages concernées de Motostation, Motojournal, Motorevue et de l'émission Sans Concession. Et on se retrouve ici même lundi prochain à 19h, même heure, même endroit pour After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Merci Président de votre
merci
participation, merci Alexis et merci Michel.
Merci à vous.
À la semaine prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.